Oui.
Allô?
Oui.
Oui, alors au milieu de Dixieland. Voilà, ben, c'est Josie, de Chronique Hebdo, du Vaucluse. Et avant de passer Jacques pour les commentaires de l'actualité, je voulais faire une petite annonce, enfin une grosse annonce d'un événement très connu qui va se passer ce week-end à Mérindol, hein, dont on parle quelquefois ici. C'est les rencontres éco. Alors ils les appellent cette année éco-citoyennes. Évidemment, il y a du citoyen partout. Mais au-delà des mauvais mots employés sur lesquels on pourrait s'exprimer différemment, c'est un événement quand même assez important. C'est la 14e fois que ces rencontres ont lieu. Et pour y être allée plusieurs fois, je les trouve assez intéressantes, où on parle d'écologie, il y a des films, il y a des rencontres, il y a des ateliers, il y a beaucoup de choses, des démonstrations, des expositions, toujours autour de l'écologie, et puis des invités qui viennent faire des conférences, et notamment cette fois-ci, ce sera autour de Hervé Quinze, qui viendra faire une conférence, et puis quelqu'un qui s'appelle aussi Marc Dufumier, et dont on verra un film à propos de la famine au sud et la malbouffe au nord. Donc ce sont des sujets intéressants. Il y aura aussi des personnes de Longomaille qu'on connaît un petit peu sur Radio Libertaire, hein. Rappeler que dans le Vaucluse, nous avons Radio Zinzine, qui est une radio assez parente avec Radio Libertaire, hein, qui est très intéressante. Et donc, il y aura quelqu'un qui viendra aussi parler du puissage des brebis. Hein, puisqu'ici, quand même, il y a dans les Alpes de Haute-Provence qui sont juste à côté de nous, il y a quand même beaucoup de troupeaux. Même ici, d'ailleurs, on voit de plus en plus de moutons, de brebis. Et donc, ils viendront parler du puissage des brebis. Et d'ailleurs, il y a eu une grande marche organisée pour protester contre le puissage qui partait de Fort-Calquier, puis qui allait, je ne sais plus jusqu'où, enfin, très loin.
Et Josie, permets-moi, oui. Enfin, fais une petite blague quand même. Le oui. Puissage, hein, c'est ça?
Le plus.
Et le pas le dépucelage et pas dépucelage de brebis.
Et oui, sinon on ne peut pas se marier.
Voilà, on ne peut pas se marier. Donc, sinon, mais il faut préciser pour les auditeurs écouteurs.
Oui, oui, les auditeurs écouteurs, oui. Voilà, ben, c'était pour raconter, parler de cet événement. On va y aller et on en fera un petit. Ça se passe à Mérindol, donc samedi et dimanche, 1er et 2 juin. Et c'est vraiment un événement qui est très important. Les gens viennent de très loin et il y a de plus en plus de monde. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont un peu diminué, ils ont pas mal diminué l'aspect qu'il y a toujours dans ce genre d'événement, c'est-à-dire commercial et tout, avec plein de petites boutiques, plein de petits de marchés, de gens qui vendent des trucs. Il y en a un peu moins, il y a un peu plus de mise en pratique. Et d'ailleurs, ce sera ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça va permettre d'évoquer et de toucher beaucoup plus de monde à propos de la ZAD. Parce que comme on est juste à côté donc d'Avignon, il y aura aussi des représentants de la ZAD et il va y avoir une construction d'une cabane et l'évocation justement de la ZAD d'Avignon et de tous les problèmes de bétonnage de la région comme à Cavaillon où il y a déjà je sais pas combien d'énormes supermarchés, puis il est question d'en créer encore un, enfin voilà. Sinon, autre chose qu'on a vu récemment, c'était un film à propos du sable et on l'a trouvé vraiment bien, un documentaire. Donc je sais plus sur quelle chaîne c'était, mais Arte, mercredi je crois, ou mardi soir. Et on conseille vivement d'essayer de le retrouver parce que l'idée du sable des plages justement, puisque tout le monde, beaucoup de gens attendent que ça, d'aller se bronzer sur les plages. Là, il y avait une explication, comment dire, une alerte sur la disparition du sable et toute l'explication qui va des neiges jusqu'au sable de nos plages, quoi, le lien qu'il peut y avoir. Et encore une fois, avec le système de spéculation immobilière, le dépouillement des populations pauvres et le vol du sable de partout pour créer... Alors là, vraiment, c'était incroyable. On construit des îles pour les vendre. Ça, oui. Je ne pensais pas que c'était vrai. Vraiment, mais on le voit. On voit une photo, on voit un reportage par avion. On voit des plein de petits îlots comme ça qui attendent leur acheteur.
Voilà, oui, alors c'est incroyable,
des sables venus qui ont été pillés ailleurs.
Il y a des photos, enfin aujourd'hui, je crois que c'est je suis sûr, même Le Monde de ce jour, c'est en Sierra Leone. Voilà. Aussi, et rappeler qu'il y a peu de temps, enfin là c'était en Bretagne, hein, c'était à la fois dans le Morbihan et dans les Côtes d'Armor, il y en a absolument partout. Et rappelons quand même rapidement, alors évidemment pour les marchands, et je dis les marchands de sable, hein, et là aussi le marchand de sable, ils veulent vous endormir, donc les populations doivent se réveiller pour combattre tous ces marchands de sable, parce que derrière aussi, il y a les constructions, là aussi, hein, on le voit.
Oui, c'est pour le béton. Voilà.
Exactement, du béton, et qui est entassé évidemment des populations dans du béton, et aussi faire des constructions pour les riches, hein, pour les ceux qui ont piqué le pognon. Et là aussi, on le voit, hein, puisque dernièrement, on a vu un reportage, je crois, du côté d'Annemasse, où des maçons espagnols, puisqu'ils ne peuvent plus rien construire là-bas, puisque c'est la débandade en Espagne, après avoir complètement bétonné beaucoup de côtes espagnoles, en particulier du côté de la Méditerranée. Et là aussi, on voit aussi au Portugal. Donc c'est un mouvement général. Et alors, le pillage est partout, évidemment, puisque, et en particulier là, un des pays les plus pauvres, comme la Sierra Leone, où des malheureux gamins sont avec des pelles, hein, ils ont une dizaine d'années, donc déjà, les esclaves enfants, hein, là aussi les bonnes conscience d'ici, et prennent, on les fait bosser, et évidemment pour eux, ils n'auront pas, le résultat de tout ça, c'est l'abomination du capitalisme. Voilà, vas-y.
Oui, c'est tout à fait ça, et on montre aussi dans des pays très pauvres, les gens, l'intérêt de voler du sable, on voit des gens qui plongent en apnée, pour aller chercher 2-3 kilos de sable, le remonter sur un bateau, et à la fin de la journée, quoi, tous ces petits tas de sable, ces petits sacs de sable forment un volume assez important pour être revendus. Enfin voilà, on les paye à coups de lance-pierre. Et puis en plus, le tout, c'est de comprendre l'équilibre qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, ce qu'on fait en s'approchant en bétonnant près des mers, empêche la vie des plages, en fait, puisqu'on apprend là que le sable est quelque chose de vivant et qu'il recule et s'adapte à la mer. Et le fait de construire très proche fait que le sable est emporté par la mer. Enfin, voilà. Voilà, je vous passe Jacques pour la suite des commentaires de l'actualité. Bonjour à tous.
Jacques.
Bon, eh bien, alors salut,
ça va. Salut.
Ça va, oui.
Ouais, ouais, ça va bien.
On est en forme.
Voilà, t'as vu ce matin, on était en forme, hein, c'est
oui,
tout.
Oui, oui, j'ai vu ça, faux. J'ai vu que t'avais cité Castoriadis et la montée de l'insignifiance.
Oui.
Et justement, moi, mes deux sujets, c'est pas seulement l'insignifiance, c'est-à-dire que les mots n'ont plus le même sens, c'est le fait que on peut constater, et il y a deux phénomènes qui m'ont frappé dans l'actualité de cette semaine. C'est, tout à l'heure tu rappelais que l'État, selon Proudhon, est étranger au droit, et que par conséquent, qu'il s'agisse du mariage des hommes, ou d'autres choses, il se moque complètement du droit que ça peut représenter, et simplement c'est une soumission un petit peu plus nette à ses exigences. Mais ce qui m'a frappé dans l'actualité de cette semaine, c'est le comportement du journalisme. c'est le comportement du monde. Je ne sais pas si tu as remarqué, pour moi, le monde est devenu le journal de l'armée. Oui. Le quart du journal est consacré à la guerre de Syrie. Et depuis le numéro du lundi 27, tu as des photos, des commentaires, des accusations sur les armes chimiques qui sont le fait... ces accusations de deux employés du journal.
Oui, hein, ben c'est ça qu'il faut souligner, Jacques, t'as raison.
Qui ont été envoyés.
Les journalistes
sur place,
du monde,
ils étaient envoyés en mission spéciale militaire par le journal Le Monde, qui depuis longtemps d'ailleurs fait des éditoriaux en poussant au crime, c'est-à-dire en disant il faut absolument intervenir pour soutenir les rebelles syriens. Consacrer autant de pages pour, en effet, exciter au développement de la guerre civile entre la dictature Bachar el-Assad, qui tient le pouvoir en ce moment, et exciter à la guerre civile avec ses opposants, en plus ses opposants qui sont des islamistes convaincus, des adeptes de la charia. C'est absolument scandaleux que nous ayons un journal, tu l'appelais le journal de révérence ou le quotidien fédéral des marchés, mais alors maintenant c'est le marché militaire.
Les marchés d'armes, oui, c'est ça, les marchés d'armes.
Et alors mettre de l'huile, on peut dire mettre du gaz sur le feu comme ça, télé, on peut dire que c'est vraiment une valeur morale, une valeur journalistique particulièrement intéressante de ce quotidien. C'est quand même lamentable que les hommes de paille qui s'appellent journalistes accusent sans embâche le dictateur Assad d'utiliser des gaz asphyxiants. Alors, et c'est ça qui est absolument scandaleux, dans un article qui a dû paraître il y a 15 jours dans le même journal, l'ancienne procureure de la Cour pénale internationale, Carla Del Ponte, si tu te rappelles.
Oui, oui.
Eh bien, elle soupçonnait justement les rebelles d'utiliser du gaz asphyxiant. Alors, avant de lancer ce genre d'accusation, c'est quand même incroyable qu'un journal puisse faire aussi la preuve de son manque total d'honnêteté intellectuelle. D'autant plus que aider les rebelles. Il y a eu des articles dans le même journal qui rappellent que finalement il faut pas du tout espérer la chute de Bachar el-Assad parce que sa structure est très très solide, mais en plus si par hasard les rebelles l'emportaient, eh bien ils utiliseraient les mêmes structures que Bachar el-Assad et ils feraient exactement la même chose. Alors tu te rends compte que ne pas être capable de même de lire c'est un mec qui est chercheur, je ne sais où, qui s'intéresse à la Syrie, qui a écrit ce truc-là. Alors ne même pas être capable de lire les propres articles de son journal, c'est quand même absolument lamentable. Oui. Et alors, on peut ajouter à cette nouvelle tenue de la Gazette militaire du Monde, qui faisait aussi paraître un article dans lequel on pouvait lire que des rebelles allaient être avoir leur image ternie. Et tu sais pourquoi? Parce que ils ont été pris, enfin il y en a peut-être pas beaucoup, mais ils ont été pris à faire du cannibalisme. Ah oui. Un acte de cannibalisme ternit l'image des rebelles syriens, voilà ce qu'écrit Le Monde. Une vidéo montre un rebelle mutilant un soldat du dictateur pour extraire le cœur et le foie et le mordre. Alors, est-ce qu'on doit aboutir à la conclusion que tous les rebelles sont un groupe de cannibales? C'est incroyable. C'est vrai que, comme on l'a dit l'autre fois, tout soldat, tout porteur d'armes, inconsciemment ou non, remplace son cerveau par l'arme qu'il porte. C'est vrai que... Mais enfin, il y en a peut-être quelques-uns qui ont le courage de se débarrasser de l'arme, de retrouver leur cerveau et puis de se comporter en homme.
Oui, alors pour Le Monde, Jacques, enfin, on l'avait déjà fait, puisque on le dit, ce journal qui représente un peu le journal officiel, il est aussi la nouvelle rubrique, vous, depuis peut-être 3 semaines, l'économie entreprise, qui est une rubrique continue, quotidienne. Donc on peut dire que c'est la guerre économique, hein, c'est pas une nouveauté. La guerre totale et la guerre réelle. Pense que le développement qu'il y a dans ce journal Le Monde, c'est d'une certaine manière de montrer les atrocités, de montrer la barbarie, de montrer la guerre en permanence, pour masquer peut-être la guerre économique et la guerre sociale.
Oui, et là aussi. Et alors, justement, dans un de ces numéros, le journal fait un texte dans lequel tu peux lire. Hein, c'est le 22 mai, l'intervention de la France au Mali. Voilà, c'est en gros titre. Pour repousser les forces islamistes, n'est que l'illustration la plus récente de son intérêt politique et économique pour la région. Tu vois? Donc, il y a vraiment là l'aveu le plus éclairant que, au fond, c'est pas du tout pour se débarrasser des djihadistes, c'est simplement parce que on veut garder l'uranium du Niger, on veut garder toutes les ressources possibles, on veut aller, jouer les néocolonisateurs. D'ailleurs, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est que, tu sais que l'ONU, 120, je crois, ou 130 pays faisant partie de l'ONU, c'est-à-dire une grande majorité, vient de condamner la France et l'appeler à décoloniser la Polynésie. Hein, décoloniser la Polynésie, c'est l'expression utilisée. Bah oui. C'est-à-dire que nous sommes toujours des colonisateurs.
Tu dis tout à l'heure, la France.
Et c'est à propos, tu sais, de l'ignoble Gaston Flos, qui, depuis des
L'exemple, il se dit lui-même un exemple. Hein, il l'a dit, je suis un exemple.
Il est un exemple de la colonisation, et on peut même ajouter qu'une des formes de la néocolonisation, c'est le vote. Hein, c'est-à-dire parce que cette crapule de Flos, elle est toujours élue malgré toutes ces délinquances, tous ces crimes, contre le candidat indépendantiste. Donc ça veut dire qu'il peut payer la population. C'est ça le clientélisme pour se faire réélire. Et plus t'es une crapule, plus t'as des chances d'être réélu. D'ailleurs, Cahuzac qui voulait se représenter. Alors donc, être traité quand même de colonialiste, être traité par l'ONU. Alors évidemment, la Grande-Bretagne, les États-Unis et tous les pays qui ont encore des semi-colonies ont pas voté cette résolution, mais elle a été adoptée à une très grande majorité. Et j'ai trouvé que c'était bien ça, le symbole même de ce qu'on appelle en effet la guerre économique, la guerre tout court, et donc la nouvelle forme de colonisation de tous ces pays qu'on est en train en effet de contribuer à dégrader complètement, à exciter à la guerre civile. Regarde dans l'affaire du Mali, il y avait un papier aussi dans Le Monde qui disait nous sommes inquiets, nous nous demandons ce qu'on va faire des 100 ou 200 djihadistes français. Quand ils vont rentrer à la maison, est-ce qu'ils vont se mettre à balancer des bombes dans le métro parisien? Est-ce qu'ils vont jouer les petits assassins comme le mec qui a planté un soldat, je sais pas si c'est à Londres.
Et puis, alors ça, il y a eu ça à Londres, et puis dernièrement, enfin j'ai évoqué au début de cette émission, puisque l'arrestation, ça s'est fait ce matin, ou hier matin, en particulier par rapport à ce qui s'est passé pour nos amis de province ou d'ailleurs, sur le parvis de la Défense, là, où un militaire de Gap...
Ah oui, je croyais qu'il s'était échappé, mais ils l'ont trouvé. Alors.
Un militaire de Gap, arrêté. Alors, écoute Jacques, je peux être tremblé, je vais dire ça aux auditeurs, parce que tu sais qu'on parle quelquefois de 50 ans en Yvelines, mais là, justement, dans les Yvelines, ça concernerait la ville nouvelle, puisque l'originalité de ce personnage, il est issu de cette cette agglomération, syndicat d'agglomération de la ville nouvelle.
Il est de chez toi?
Oui, alors je vais te dire, le mieux, il est originaire de Trappes, on parle des prières de rue de Maurepas, c'est juste à côté côté. Après, on parle
plus,
de...
Plus une mosquée à...
Oui, alors mosquée à Trappes. Et puis, on parle aussi qu'il s'était manifesté l'année dernière, en particulier avec un abribus. Avec, il y avait des femmes et ça, il avait fait scandale, paraît-il, parce qu'il se plaignait que des femmes attendent l'autobus. Et donc, c'était là, carrément, à Guyancourt. Et je vais te dire aussi la suite. Il a été, pour la petite histoire, mais qui rattrape la grande, pour l'Essonne, en tout cas, il avait été bossé dans une boucherie à Lal. Il avait une formation, donc, alors je ne sais pas si c'est là qu'il a appris le découpage de la viande. Donc, c'est la question qu'on peut
se poser.
C'est
comme les cannibales, quoi. C'est
voilà, ça rejoint, ça rejoint...
Ils veulent goûter de l'humain parce qu'ils n'ont pas le droit de manger du cochon.
Et l'arrestation s'est faite où nous avons des amis dans les Yvelines, à La Verrière. Voilà. Donc j'ai vu ça ce matin, tu vois, comme disait dans mon petit journal. Alors, je ne sais.
T'as intérêt à te faire protéger.
Nous allons trembler dans la ville nouvelle, comme on dit. On va ce matin, apparemment, ça avait l'air de bien se passer. Les gens allaient au boulot, enfin bon, comme d'habitude, sans rien dire. Voilà.
Justement, j'étais scandalisé puisqu'on parle de la charia, puisqu'on parle de cette religion qui, après les crimes de la religion chrétienne, poursuit allègrement les crimes qui sont liés à tout spiritualiste convaincu, comme dirait Blanqui, et qui deviennent des assassins, c'est que dans le monde, il y avait un assez grand commentaire pour une revue qui s'appelle Noor, N-2-O-R, et Noor, il paraît qu'en islam, ça veut dire la lumière de Dieu. Et alors, le titre de cette revue, c'est « Pour un islam des lumières ». Alors, tu te rends compte, utiliser les lumières de Diderot, de D'Alembert, de Voltaire, pour essayer de justifier ce que, effectivement, il n'y a pas que des assassins parmi les religieux musulmans, mais pour essayer de justifier le fait qu'il peut y avoir un islam modéré, ça me fait penser à cet abruti, tu sais, qui avait fait une association de défense des laïcs et des musulmans modérés. Il n'y a pas de modération dans n'importe quelle religion. Bien sûr qu'une fois que tu te débarrasses, même si c'est pendant quelques heures, de ta défroque religieuse, tu peux redevenir un homme, comme disait Proudhon. Est-ce qu'on peut trouver dans le moine ou dans le soldat, est-ce qu'on peut trouver un homme? Ben non, on peut en trouver un homme que si il se débarrasse de son arme ou il se débarrasse de sa défroque. Alors effectivement, j'ai été absolument sidéré de voir qu'on faisait peut-être pas une pub au sens... Tu vois, grossier du mot, mais enfin, il n'y a pas une critique, hein, il n'y a pas. Évidemment, le mec qui a écrit qui a fait cette revue, il a essayé de trouver les aspects positifs de certains ouvrages modérés des religieux de l'époque d'il y a, je sais pas, 500 ans, ou bien, tu sais, de l'architecture comme celle je ne me rappelle plus de leur nom, de ces musulmans qui étaient en Afrique du Nord et qui ont bâti Grenade, par exemple, où effectivement, t'as une admirable architecture, ça n'a rien à voir avec la résignation et le pouce au crime qu'est le...
Justement, sur cet aspect-là, enfin, de rappeler peut-être juste ça, j'avais vu aussi au Liban, il faut rappeler quand même, là aussi, tu sais, le cèdre du Liban, l'emblème de l'arbre, où cohabitent 18 confessions, confession, alors ils disent confession secte, là-bas, mariage, divorce et question d'héritage, on revient un peu les propos qu'on a évoqués, reste du ressort des autorités religieuses, et il faut le dire là-bas, le mariage civil n'existe pas, mais c'est faut aller se marier à l'étranger.
Oui, c'est alors, pour ça que tu fais bien de parler de religion d'État, parce que les chrétiens de lesbiennes qui vont se marier, ils vont faire soumission à l'État, alors qu'il y a quand même, je crois, plus de 30 ou 40% de gens qui vivent en union libre.
Bien sûr, bien sûr. Hein, et c'est ça et le développement, puisque le retrait de ce mariage, que ça veut dire, mais voir les sources religieuses, sont toujours oubliées, puisque rappeler qu'au Liban, voilà un petit peu les pratiques. Alors, les pratiques religieuses, on avait déjà qu'au début de cette émission, on ne l'a pas rappelé, faut pas l'oublier, sur Radio Libertaire, c'est toutes les religions. Hein. Et alors, donc, c'est pour ça que j'ai évoqué la religion d'État. Hein. Là aussi, il y en a absolument pour tous. Et souvent, c'est vrai, quand on s'exprime, en particulier quand une religion est plus sur le devant de la scène là, à un moment donné, comme je parlais tout à l'heure d'histoire immédiate, et bien évidemment on en parle et on fait et par rapport à ça, c'est une évocation que l'on peut faire, mais comme on aurait pu rappeler que le François, alors évidemment c'est pas le François de l'Élysée, tu le sais, le François du Vatican, et bien le naturel revient au galop, pour la contraception, pour l'avortement, et donc il fait des siennes en ce moment, ça réapparaît très très fortement justement, et donc dans le paysage vaticanesque que nous a fait croire encore que ce pape était un bon pape qui allait s'occuper des pauvres. Alors évidemment. Alors.
Non, oui. Puis alors quand tu vois des catholiques, alors il paraît qu'il y en a qui sont scandalisés par les manifestations contre le mariage gay, mais quand tu vois les catholiques intégristes et peut-être même d'autres qui ont été faire les cons sur le mur le mur des cons, à propos du mur des cons, j'ai remarqué que le Conseil supérieur de la magistrature, qui avait été saisi par la ministre de la Justice, a dit qu'il ne voulait pas du tout se prononcer et qu'il considérait finalement que les magistrats qui avaient fait des clichés, fait des photos de personnages politiques en mettant le mur des cons, n'était pas susceptible de poursuite. Alors c'est quand même déjà pas mal, ça veut dire que...
On peut.
Ça veut dire que même la justice officielle n'ose pas dire qu'il n'y a pas de con, quoi. Alors donc
il y avait une bonne nouvelle aussi avec le procès, j'évoquais rapidement puisque tu parles de ça, parce que c'était la magistrature, le syndicat de la magistrature, donc du côté de la place Vendôme, de ce matin, rappeler quand même qu'un des mecs là qui est impliqué, qui se retrouve à l'Hôtel Dieu dans l'affaire Tapie,
il y a même eu un avocat,
mais là il y a un procureur, un ancien proc de Versailles, et donc moi je trouvais à l'ancien magistrat, c'est une bonne nouvelle que de se retrouver à l'Hôtel Dieu. Alors Pépère, il était, évidemment ça allait pas très bien, et donc il est impliqué, et il se retrouve entôlé à son tour, et Jacques, alors par rapport à ça, je voulais préciser, je vais le retrouver, alors vas-y toi, ce que tu voulais dire.
Ce que je voulais aussi souligner, et qui me paraît tout aussi grave que l'accusation de colonialisme qui vient de nous être balancée par l'ONU, l'Organisation nationale, enfin internationale des Nations Unies, c'est le fait que tu parlais du père François, moi je parle du petit crétin de l'Élysée qui a été faire un numéro devant des lycéens, et le journaliste qui rapporte ça dit François Hollande était tout goguenard pour expliquer ce qu'était le CNR, pour expliquer ce que la résistance. Il voulait essayer de dire, mais la résistance, c'est pas seulement les crétins du mur du mur des barjots, c'est ce qui s'est passé contre le nazisme, mais il a simplement oublié qu'il était entré dans la même logique fasciste, crypto-fasciste que Pétain. Que d'ailleurs l'Europe, on l'a dit la dernière fois, l'Europe de Schuman, l'Europe de Monet, c'est l'Europe fasciste et l'Europe des banquiers. Alors donc il a osé dire que au fond il fallait surtout respecter, alors oui, respecter, mettre au musée puis mettre à la
poubelle. C'est ça, mettre au musée,
les décisions du Comité national de la résistance, qui avait essayé tant bien que mal de faire contrepoids à l'influence traditionnelle des bourgeois, des riches, capitalistes, en tenant compte du fait que tous ces bourgeois, ces riches et capitalistes, ils avaient aidé Hitler et ils avaient aidé Pétain à à maintenir leur dictature.
Donc, alors c'est bien pour ça que la résistance allait, l'a dit tout ce matin au début de cette émission, à revivifier, à rappeler que la résistance c'est maintenant. Hein, justement, si pour les étudiants, pour les plus jeunes, en tout cas, mais pour l'ensemble de la population, on fait des grands discours, là, on rappelle Jean Moulin, 70 ans hein, par rapport à l'époque 1943, eh bien le Conseil National de la Résistance, n'oublions pas que certains, hein, il y a 3, 4, 5 ans, sont passés dans les écoles, au BRAC en particulier. Et à l'époque, eh bien, on avait trouvé que ça allait pas tellement, puisque au BRAC, enfin, légèrement, rappelait le Conseil National de la Résistance et osait le comparer avec ce qui se passait déjà il y a 5-6 ans. Et en particulier, je veux rappeler monsieur Denis Kessler, qui disait, Denis Kessler, ancien de la CFDT,
Et qui continue à sévir. Oui, Medef, il paraît que c'est lui qui va faire le nouveau président.
Il avait dit, tout ce qui a été mis en place par le Conseil National de la Résistance, il faudra le foutre par terre. Alors c'est ça que M. Aubrac rappelait. Donc, pour montrer l'actualité de ce combat permanent et qui a revivifié de la résistance, comme je parlais ce matin, de l'occupation, c'est-à-dire l'occupation capitaliste, l'occupation comme jamais de la bourgeoisie, qui confisque toutes les richesses, et là encore, tu parlais d'Hollande et Merkel qui cherchent, mais ils vont pas y arriver, hein, de toute façon, parce que quand on voit l'histoire de leur croissance, ça marche pas, mais essayer d'un new deal, écoute bien, mafiosi, pour remettre au STO, pour refaire le STO, pour refoutre tout à ta jeune au boulot, dans n'importe quelle condition.
Et pour refaire, je pensais à ça quand tu parlais du New Deal, je pensais à Louis Blanc qui en 1848, avant la Révolution, avait essayé pour calmer les ouvriers parisiens qui étaient au chômeur, de créer des ateliers nationaux. Voilà. Et ces ateliers nationaux, il n'y avait rien à faire. Alors un beau jour, la petite indemnité minime qui était attribuée à ceux qui s'inscrivaient aux ateliers nationaux a été supprimée et ça a déclenché la révolution. Alors bon, c'est alors, ça qu'ils veulent faire.
Bien sûr, le grotesque, parce que comme ça, à la marge, moi j'avais évoqué, hein, je te dis, c'est pas nous, hein, on se permettrait pas. Le STO, hein, ça a été évoqué, et les stages en particulier dont on signifiait l'importance pour l'Allemagne, c'était, écoute bien, pour les femmes coiffeurs et c'était pour les mecs peintres en bâtiment. Voilà, et donc on disait, et même ils ne sont pas sûrs d'avoir du boulot à la fin de leur stage. Où on en est? Voilà ce que ce sont les emplois d'avenir, les emplois générationnels, ce qu'ils veulent faire exactement. Donc c'est une impasse totale, qu'on parlait de l'impasse du capitalisme, ils sont en plein dedans.
Et surtout même que là encore, les organismes officiels, l'UNEDIC vient de faire un rapport, Le Monde en parle dans une demi-page, sur le chômage. Mmh. Et il est en train de dire le chômage sera en hausse d'après l'UNEDIC.
Ce soir même, les chiffres.
Et jusqu'en 2014.
Bien sûr.
Et sur le plan du social aussi, il y avait un article qui rappelait que les malheureux sans-papiers à qui on confie des boulots difficiles qui ont un accident du travail, eh ben ils ont qu'à crever, ils sont pas du tout pris en charge.
Voilà, alors Jacques, je rappellerai tout à l'heure, si j'ai le temps, je lirai une petite chronique qui a été écrite par Guillaume Meurice, et je vous le rappelle, je rappelle aux auditeurs tout de suite, comme ça, s'ils veulent aller voir, c'est sur Internet, c'est un journal, hein, comme journal Le Dehors, vous pouvez le trouver sur Internet, et ça, c'est le Coq des Bruyères. Alors je lirai parce que c'est relié justement à la chance que l'on pourrait avoir actuellement à transformer radicalement ce que c'est que le travail dans nos sociétés et de voir justement les possibilités.
C'est déjà Blanqui qui à l'époque, donc il y a 150 ans, en parlant des esclaves de la Martinique, il disait mais est-ce que le travailleur français qui passe 14 heures par jour au boulot n'a-t-il pas les mêmes contraintes, la même exploitation que l'esclave? Donc pour lui, il y avait déjà une corrélation absolue entre le salariat et puis l'esclavage.
Exactement, hein. Bah, comme j'ai cité Proudhon, puisque je te dis dans son bouquin, hein, tu sais, évidemment, les quelques premiers, en préambule, il parle, si je dis l'esclavage c'est l'assassinat, tout le monde me comprend. Alors là, c'était à l'époque où il a écrit son ouvrage sur la propriété, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà.
Et alors dans les notes que j'avais prises, il y avait aussi une décision du Conseil constitutionnel qui doit être prise maintenant. C'était le 23 mai qu'il était saisi, et qui a été saisi parce que on lui demande si la liberté d'expression est compatible avec le droit à l'oubli. Autrement dit, si par exemple tu te permets d'oublier la guerre de 14-18, est-ce que tu peux encore le dire? C'est grave, ça veut dire que les historiens peuvent se permettre de dire n'importe quoi. C'est ce qu'on disait à propos de la fameuse formule là, je me rappelle plus son nom, en 1867, qui disait que les historiens étaient évidemment engagés uniquement pour mentir.
Voilà, Jacques. Alors écoute,
tout à l'heure tu avais parlé avec Josie de l'écologie, en tout cas.
Oui, Hervé Kempf, alors justement rappeler sa petite rubrique.
Oui, le texte d'Hervé Kempf. Et ce que je voudrais souligner, c'est l'offensive, puisqu'on parle beaucoup de guerre dans cette émission d'aujourd'hui, l'offensive du journal Le Monde et de GDF-DDF pour casser complètement l'idée qu'il faut se débarrasser du nucléaire. Le GDF Suez, non seulement habille les policiers, hein, parce qu'apparemment il a aussi repris les 100 000 chemises. Tu te rends compte, une banque et puis un service public du gaz qui habille les policiers. Mais en plus, il vient d'être autorisé par le gouvernement belge à remettre en service les deux centrales nucléaires belges.
Oui, bien sûr.
Donc, si tu veux, à mon avis, et puis tu avais dans Le Monde deux ou trois pages de chefs d'entreprise, que ce soit GDF ou que ce soit d'autres chefs d'entreprise. D'ailleurs, il y avait Le Monde fait partie, ou du moins contribue à la discussion sur la transition énergétique, et soi-disant, voilà encore un bien joli mot pour dire que les associations d'entreprises privées qui sont chargées donc de la gestion de l'énergie, eh bien, sont bien décidés à casser tout mouvement, toute initiative qui irait dans le sens de l'arrêt du nucléaire.
Ouais. On est
à un moment critique, ils se rendent compte quand même qu'il y a une partie, en tout cas, de la population qui commence à trouver que les choses ne peuvent pas continuer. Et puis, ils font des menaces. Tu vois, ils disent, l'électricité va doubler. Tu vois, donc, il y a toute une organisation, en quelque sorte, offensive pour casser toute idée d'un renouvellement, d'un renouveau et évidemment d'un arrêt du système.
On ne sait pas l'arrêter. Alors, tu sais qu'on l'a dit, justement, on ne sait pas arrêter les centrales nucléaires. Hein, le documentaire qui avait été fait par Bernard Nicolas, dont on a parlé la semaine dernière. Mais l'autre chose aussi, les rencontres au sommet, comme ils disent Merkel-Hollande, c'est de dire les Belges, donc, auront des centrales nucléaires qui vont pas très bien. La France, en particulier avec Fessenheim. Alors, vous, les Allemands, vous pouvez l'arrêter si vous en êtes capable. Mais de toute façon, si ça pète en Belgique ou si ça pète en France, vous en prendrez plein la gueule. Alors soyez rassurés, donc vous serez doublement cocu dans cette histoire-là du nucléaire, parce que c'est vrai que si c'est pas un arrêt de l'ensemble des pays, hein, on l'a dit souvent, il est né généreux, souvenons-nous évidemment de Tchernobyl, il y en a eu pour tous les pays d'Europe, donc l'Allemagne est quand même pas très loin de la Belgique et pas très loin de la France, hein, regardez vos cartes.
Oui, elle aura droit. Voilà.
Alors donc c'est pour ça que c'est une pantalonnade, c'est une escroquerie de plus.
Et dans la résistance qu'il y a à faire contre, c'est vrai que c'est difficile de résister contre ces monstres financiers et industriels, mais Il y a quand même des gens qui se battent. Regarde à Bure, par exemple.
Bien sûr, là aussi.
Eh bien, la mascarade que représentait un soi-disant débat pour savoir si on allait enterrer pour 100 000 ans des déchets qui resteraient radioactifs. Eh bien, il y a eu un certain nombre de participants d'associations qui ont dit « Arrêtez vos conneries, nous, on vous interdit le débat. » Et le débat a été absolument... arrêté grâce à ces manifestants.
Oui, ben là aussi, c'est une, évidemment, Hervé Kempf, dans sa dernière chronique, hein, on le rappelle, il fait ça dans Le Monde, c'est de dater du dimanche lundi, ou du samedi dimanche, non, je crois que c'est dimanche lundi, exactement, et donc, il était aussi, il a bossé très longtemps au Monde, hein, comme rédacteur en chef, rien que ça, pour rigoler, mais il a dit, c'est plus possible, et on lui laisse ses petites rubriques, et rappeler qu'il est venu l'année dernière sur Radio Libertaire, donc dans une émission justement où tous ces thèmes-là ont été abordés. Oui.
Et tout à l'heure, je ne sais pas si Josy l'a dit, mais il sera justement à la réunion de Mérindol.
Voilà. Et donc pour démontrer là, le dernier billet, évidemment que tout le nucléaire, ça a été décidé par les lobbies et ça a été de temps en temps essayé de l'habiller, hein, comme les commissions mis en place démocratiques de citoyens pour donner leur avis. Mais leur avis, on n'en a rien à torcher de votre avis, comme d'habitude. Donc là, à Bure, c'est déjà décidé, tout est décidé pour le nucléaire, puisque c'est du nucléaire militaire. Donc faut obéir, et il n'y a rien de démocratique, évidemment, vous savez, avec les militaires quand même. Bon. Et donc le nucléaire est militaire essentiellement, hein. Donc le civil,
et c'est secret défense. Et
exactement. Et donc fermez nos yeux.
La discipline,
c'est la démocratie.
Indispensable. Et justement à propos de la démocratie, il y a une information qui m'a satisfait. C'est ce qui s'est passé en Italie aux élections municipales.
Ah oui, j'ai vu ça.
Tu sais que il y avait un zozo, là, Beppe Grillo, qui avait réussi à faire un grand mouvement pour contrer le principe même de la délégation de pouvoir et de la désignation des députés. Mmh. Hein, il avait obtenu, je sais pas, presque un tiers ou un peu plus même, un tiers des
voix.
Et là, il s'est présenté au municipal, enfin, il avait présenté son mouvement au municipal pour avoir des sièges. Et ben, ça a été un flop retentissant, ce qui pourrait avoir comme conclusion que les gens qui se sont fait griller par Grillo, la bataille, elle était contre le principe même de la délégation.
Là, il est remis exactement en place. Mais ce qu'il faut dire quand même, Jacques, par rapport au mouvement qui a été développé, là, c'est intéressant par rapport à la réponse de certains électeurs, parce que ne l'oublie pas quand même par rapport à cette affaire-là des municipales, il y a eu un taux d'abstention gigantesque.
Disons que les abstentionnistes, c'est les mêmes que ceux qui ont voté contre.
Oui, et alors là aussi, il restait quand même une chose, qu'il les emmerde quand même beaucoup, parce que les journalistes ne veulent pas rencontrer tout un tas de gens du mouvement, alors ça continue. Et au moins, ce qui a été fait par ce dit mouvement 5 étoiles, une chose, c'est qu'il ne cède pas sur le fait de virer absolument, de mettre Berlusconi totalement hors jeu, et lancer cette idée, alors après on peut en discuter, d'un revenu minimum, alors moi je dirais maximum, de toute façon, de 600 euros pour 8 millions d'indigents là-bas. Alors, est-ce qu'il fait le boulot par rapport à une fausse redistribution? Mais en tout cas, c'est sur la table, et ce mouvement 5 étoiles, je dis malgré tous ses défauts, il a aussi les défauts du capitalisme, parce qu'il est pris au travers de ce capitalisme.
C'est au nom du réalisme, comme dirait Hollande, qui faisait une définition du réalisme.
Exactement.
Au nom du réalisme, finalement, on abandonne ses idéaux.
C'est ça. Alors, entendu, écoutez, peut-être on va...
Oui, on va peut-être te laisser conclure.
Séparer avec une chanson. Moi, je reviendrai sur quelques infos. J'avais dit tout à l'heure, bref. Et Jacques, pour évoquer la CPI, puisque je ne sais pas si tu avais vu cette information concernant la Cour pénale internationale.
Ah oui, qui est accusée par... Ah oui, en Afrique, c'est ça. Oui, j'avais noté
tu
ça.
Tu avais ça, voilà.
Alors, je voulais comparer ça, tu sais, à l'antisémitisme ou à l'antiracisme.
Ah oui, exactement.
Qui protège le délinquant.
La chasse raciale, voilà. Oui, oui, oui. L'Union africaine.
Du moment que tu es africain, du moment que tu es noir, du moment que tu es juif, eh ben, tu n'es plus du tout susceptible d'être un délinquant.
Alors justement, préciser, hein, c'était le monde du mercredi 29 mai. Donc c'était Addis Abeba, la Cour pénale internationale mène une sorte de chasse raciale en ne poursuivant que des Africains, a affirmé donc le président en exercice de l'Union africaine. Hein, c'est juste ça, on va... Reportez-vous.
Oui. Ben oui, mais les formes du colonialisme, c'est ça. C'est pas seulement depuis la France-Afrique des diamants de Bokassa, mais c'est une façon de créer des hommes de main, des hommes de paille, qui sont renversés du jour au lendemain, mais qui sont toujours en fait sous la tutelle de l'ancien pays colonial et qui se comportent exactement comme des petits dictateurs et qui considèrent que ce qu'ils font ne peut pas être mis en cause.
Voilà Jacques Josy, ben je vous dis à la prochaine fois. Et puis on va se séparer avec une chanson. Alors c'est nouveau, c'est une chanson de Georges Brassens, mais nouvelle formule, alors vous allez voir ce que ça donne. C'est D'accord. La mauvaise réputation. Donc je vous rappelle, c'est Radio Libertaire.
Ah dis donc, et à propos de mauvaise réputation, j'ai parcouru le monde diplomatique, et je pense qu'il faudrait que tu fasses un papier contre Serge Halimi, qui dans un premier temps fait un petit billet pour défendre la langue française en disant que la diversité c'est le contraire de la totalité et qui dans le milieu du journal fait un autre article où il cite deux sociologues ou historiens qui n'ont absolument aucun intérêt, mais c'est le titre de son article qui m'a choqué. Le laisser-faire est-il libertaire ? Point d'interrogation.
Alors attends, je verrai.
Est-il libertaire ? Faut que tu lises ça, mais je voulais faire un papier. Je trouve ça absolument scandaleux.
Il s'est trompé peut-être.
Du monde diplomatique.
L'adjectif c'est libertarien, Jacques, peut-être.
Oui, hein, oui mais voilà. Non.
Le laisser-faire est-il libertarien ?
Il utilise aussi le mot libertarien, mais
oui, mais voilà.
À l'intérieur du papier, mais dans son gros titre, le laisser-faire est-il libertaire ?
Donc on regardera ça et peut-être. Alors vous savez, vous suivez évidemment avec attention, je l'espère, hein, les auditeurs. Donc on verra Chronique Hebdo la semaine prochaine. On répondra à.
On répondra à Serge Halimi en disant de lire Élisée Reclus, L'anarchie est la plus belle expression de l'ordre.
Voilà, Radio Libertaire, Chronique Hebdo. Alors je vous dis salut et puis tout de suite une chanson de Georges Brassens.
Salut.
Salut.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je le fais pourtant, je t'auras personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les bras, j'en aime pas que l'on suivit notre route que. Non, les bras, j'en aime pas que l'on suivit notre route que. Tout le monde médite de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Tu le fais pourtant, tu n'auras personne. En n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les bras j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non les bras j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre du doigt. Sauf les manchots, ça va le soir. Quand je vois un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire. Le cutéreux se retrouve par terre. Je sais pourtant que t'auras personne. En laissant courir les voleurs de pommes. Mais les bras j'en aime pas que l'on suivit notre route que. Non les bras j'en aime pas que l'on suivit notre route que. Tout le monde se rue sur moi. Sauf les cul-chats, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémy, promis les sorts qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je vais pourtant, ne t'auras personne, en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mes bras j'en aime pas que, l'on suit une autre route que. Non, les bras j'en aime pas que, l'on suit une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Radio Libertaire, émission Chronique Hebdo, ben on a 10 minutes, hein, voilà, il est 50 à ma fausse Rolex solaire, et un auditeur nous disait, on n'avait pas parlé, ben oui, mais une prochaine fois de cette affaire tapis, évidemment, donc qui est symbolique de ce qui se passe évidemment dans cette société ou ce qui s'est passé, hein, donc là aussi de tous ces crimes, donc on l'a évoqué tout à l'heure. Alors je voulais rappeler rapidement quelques chiffres. Je vous avais dit pour la symbolique de la prison, les personnes incarcérées dans ce pays de la liberté qu'est la France, vous le savez bien, c'est le chiffre, donc le chiffre, on va pas faire d'humour, hein, parce que c'est tragique, 67 839 personnes début mai en France, selon les chiffres en France, hein, publiés le vendredi 24 mai par l'administration pénitentiaire, un record au-delà du précédent sommet de décembre 2012, c'était 67 674 détenus. Et donc on nous rappelle que parmi ces détenus figurent 16 987 prévenus, hein, c'est-à-dire pas encore jugés, et 50 852 personnes condamnées. Alors dedans, ben, y a pas Madame Lagarde, y a pas Monsieur Bernard Tapie, je dis tous les autres, hein, qu'il y a pas. Donc voyez, et certains vous rappelez que des bobines que vous aviez vues, on en a parlé sur le mur des cons. Alors on rappelle, je vous avais dit Guy Carcassonne, mais pour lui c'est terminé. Alors j'avais juste écrit, parce que c'était le spécialiste de la Constitution, je vous avais dit tout à l'heure au début de cette émission, le petit texte dans Le Monde d'Olivier Duhamel et de l'avocat Jean Veille. Alors, donc Carcassonne, hein, président, directeur plutôt de l'Institut Montaigne, vous savez, think tank ultralibéral, je n'ai besoin de personne avec mon Carcassonne, hein, je dois vivre, et je dis vive la Constitution, pour combattre la révolution. C'est à l'Institut Montaigne où je cultivais mes haines. Vive le capitalisme et vive le poutinisme. Je dis ça aux auditeurs, il est mort à Saint-Pétersbourg. Hein, vive le poutinisme, vous savez, les poussiériotes qui sont entaulés. Et donc, je terminais en disant, c'est à Saint-Pétersbourg que j'ai perdu l'amour. Alors, ça aussi, par tous ces personnages qu'on aime bien, hein, là, et je vous disais tout à l'heure, Alors, on avait évoqué évidemment la Cour pénale internationale avec Jacques. Hein, je l'avais évoqué, et un petit texte justement parce que je voulais évoquer l'ANI. Hein, vous savez, vous avez l'accord national interprofessionnel. Alors, j'aurais pas le temps. J'avais une chanson, mais ça sera la semaine prochaine. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de ce que vous pouvez trouver sur Internet, c'est-à-dire des journaux comme le Coq des Bruyères, et vous verrez donc le Coq des Bruyères a une chronique hein, par rapport à ça qui revenait justement sur l'histoire du travail qui se passait en France en 1830. Et là, un progrès sans précédent, donc des milliers d'ouvriers, là aussi, voulaient partager les profits d'innovation. Et comme dans ces systèmes automatisés, c'est-à-dire l'industrie de l'imprimerie, c'était, vous savez, en 1830, c'était pas le numérique à l'époque, et face à la décision de leur patron de les licencier, hein, puisqu'il y avait développement de nouvelles technologies, ils prirent la décision de démanteler ce nouvel outil plutôt que de démanteler leur patron. Alors, aujourd'hui, vous savez, c'est à Florange, Gandrange, Aulnay-sous-Bois qu'on manifeste pour garder le droit de continuer à faire des 3-8 pour trois fois rien. Jadis, c'était des mineurs qui se battaient contre la fermeture des puits de malheur dans lesquels ils échangeaient leur misère contre un peu de survie. La fierté ouvrière comme seul étendard, ils cheminent sous l'œil condescendant de ceux qui, sur les marchés, vendent paisiblement les fruits de leur labeur. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre, invectivait le jeune Étienne de la Boétie. Alors, je vous signale que le siège de l'UMP, c'est à Paris, rue de la Boétie. Et puis l'Institut Montaigne, c'est une usurpation, hein, évidemment, relisez les essais. En d'autres termes, cessez de réclamer des années supplémentaires d'asservissement, de soumission, de domination, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport à avoir une pensée totalement différente par rapport à la situation du boulot dans les sociétés modernes, et en particulier de ce que personnes du chômage, hein, qu'on désigne comme chômeurs, et qui sont avant tout des êtres humains, qui réclament un peu de sous pour pouvoir avoir le vivre et le couvert, et bien plus, si l'on répartit équitablement, vous le savez, les richesses. Alors, c'est ce que nous dit ce chroniqueur, Guillaume Meurice, dans le Coq des Bruyères, exigeait directement de l'argent, cet argent qui vous est dû pour avoir contribué à pérenniser, à faire croire à la notoriété, à la valeur de votre entreprise, cet argent qui vous est confisqué par quelques actionnaires, réclamez-le, fuyez loin de ces mouroirs abrutissants, aliénants et concentrationnaires. Voilà, loin de vos bien nommées boîtes, hein, comme on dit, cercueil. Depuis quelques décennies, le progrès social coïncide avec des semaines de travail en plus. Alors, je passe un peu, encore faudrait-il, c'est ce que je vous disais, partager équitablement les richesses et les ressources dans ce pays, hein, réformer, alors c'est pas le mot, révolutionner totalement, évidemment, l'économie et le social et la politique. Et il nous dit, Guillaume Meurice, en attendant, des milliers d'êtres humains continuent de se tuer ainsi à la tâche et ne seront malheureusement jamais en mesure de profiter, pour les plus jeunes, pleinement d'une retraite dont l'âge légal se rapproche de plus en plus de l'âge létal. Alors ça, c'est ce que vous pouvez lire hein, sur ce site internet, hein, le Coq des Bruyères, et donc un petit peu des éléments avec lesquels, pas en totalité, nous sommes d'accord hein, pour une transformation évidemment radicale des systèmes de production dans cette société, des systèmes de production capitalistes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et justement, c'est une chance complète, hein, ces thèmes-là, et qui ne sont évidemment, vous vous en doutez bien, jamais évoqués par l'ensemble des médias pour maintenir hein, les populations dans un système complètement à bout de souffle, mais qui permet de maintenir quand même une partie importante de cette population. Justement, c'est ce que nous disait le discours de la Boétie. Sous les joues du travail salarié, sous le joug de l'esclavage. Voilà un peu cette situation et donc quelques propos qu'on a pu avoir ce matin dans l'émission Chronique Hebdo sur Radio Libertaire pour tenter justement, pour, comme je disais, pour les auditeurs, pour les écouteurs, d'avoir un point de vue radicalement différent et d'essayer à leur tour, puisque on voulait revivifier, c'est celui d'en haut de l'Élysée qui nous l'a dit, la résistance, eh bien à notre tour, de résister et de faire, comme on l'a essayé de le faire ce matin, des propositions pour foutre par terre, évidemment, ce système capitaliste. Alors, je vous encourage, je vous ai dit, à réécouter une émission. C'était Offensive sociale et libertaire. C'est le vendredi dernier, où on avait invité dans cette émission Laurence Lebras, qui est conservatrice de la BNF, Emmanuel Guy, chargé de recherche à la BNF, tout ça, pour parler. C'est une émission fort intéressante, où ils ont été mis un peu sur le grill, par l'animateur d'Offensive sociale et libertaire, de parler de l'exposition Guy Debord, et souvenons-nous donc qui avait pour sous-titre ou titre actuellement un art de la guerre, alors un art de la guerre sociale et un art de la résistance. Voilà, c'est Radio Libertaire, Chronique Hebdo c'est terminé, vous retrouvez tout de suite l'émission suivante sur la chanson, comme on dit, le chanson non crétinisante, c'est toujours le cas. Eh bien, ce matin, de Rimes et de Notes, avec Laurent, parce que Marlène, on la retrouvera bientôt, dans quelques semaines, peut-être, voilà. Et donc, Laurent, ce matin, l'émission, tout de suite, après quelques notes de jazz, l'indicatif, vous aurez peut-être l'indicatif de l'émission de Rimes et de Notes, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!